C'est-à-dire cet homme qui toute sa vie a fait en sorte qu'il n'apparaisse nulle part pour mieux apparaître après sa mort dans toute sa splendeur. Et là, on le voyait, c'était le premier moment de cette manifestation en gloire, ce qui est d'ailleurs le projet un petit peu contraire d'un philosophe médiatique bien connu, dont nous ne citerons pas le nom, qui passe toute sa vie à être en gloire pour mieux disparaître après.
Lyme, rencontre avec Botule.
J'ai tout de suite été fasciné, moi, parce que quand même j'ai un projet personnel narcissique hypertrophié par mon métier. Et donc, ce personnage qui existe en n'existant pas m'a tout de suite, évidemment, interpellé personnellement. Hein. Je me suis identifié, n'est-ce pas ? Et je pense que il y a une piste encore, un travail à faire, vraiment à approfondir. Botule et l'inexistentialisme, je pense que c'est vraiment quelque chose, une direction qui m'interpelle, qui m'appelle. Je me sens attiré, je suis fasciné par l'inexistentialisme, ou plutôt le concept d'exister en n'existant pas. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous fascine tous.
Mais c'est clair.
Mais ce qui est clair n'a pas d'intérêt. À partir du moment où c'est clair, c'est pas la peine d'en parler. Et inversement, si je puis dire.
C'est ça, c'est ce que disait Wittgenstein. Je crois qu'il disait le contraire, mais c'est presque pareil.
C'est lui qui me cite. Hein. Bon, moi, on m'a beaucoup piqué, et ça continue d'ailleurs. Donc voilà, et j'ai été appelé moi aussi, et je suis senti totalement habité maintenant par le personnage. Et je pense que quand je parle, je botulise, je deviens une sorte de Botule. J'incarne maintenant la personnalité, l'esprit de Botule, et je me plais à ça, et je me complais, je suis rempli de Botule.
De Botule.
Je m'embotulise moi-même, et c'est super.
Alors moi, j'aimerais qu'on évoque la vie de Botule. Il est né en 1896, il est mort en 1947, il a une vie relativement brève.
Exactement. Hein? Exactement.
Alors, on va évoquer quelques moments de sa vie, parce que vous avez travaillé à sa biographie. On va savoir un petit peu comment vous l'avez établie, cette biographie, Frédéric Pallet. Sachant toujours que c'est un philosophe de tradition orale. Qu'est-ce que vous avez comme traces pour construire cette biographie ?
Eh bien, précisément des traces orales, pour commencer. Nous sommes allés sur le terrain, dans ces hautes corbières de Jean-Baptiste Botule. Nous avons interrogé les habitants. Et là, il faut dire que bon, tout le monde connaît Botule dans les hautes corbières. Je vous signale au passage, c'est un nom de famille qui est rarissime en France. Nous avons fait des recherches, on ne trouve pas de Botule sauf à l'arrière, n'est-ce pas ? Donc déjà, une sorte de tradition populaire, on va dire, qui nous a permis, effectivement, par exemple, d'inaugurer des places Jean-Baptiste Botule. Dans le simple département de l'Aude, il y a 3 lieux publics, à l'arrière, mais aussi à Pomy, mais aussi à Sougraigne, dont les maires des élus de la République ont inauguré avec nous, au cours de ces dernières années, une place, une traverse et une promenade, Jean-Baptiste Botule. Mmh. Je verse ça au dossier pour ceux qui s'interrogent sur la non-existence prétendue de Botule. Pour revenir à votre question, Daniel Mermet, alors, 1896, 1947, c'est les choses les plus certaines que nous possédons. Date de naissance, date de mort. Il s'est trouvé que l'association ayant été créée en 1996, nous avons pu fêter immédiatement le centenaire de la naissance de notre philosophe favori. C'était assez pratique. Et il se trouvait que, étant mort en 1947, l'année suivante, nous avons pu embrayer et fêter le 50e anniversaire de sa mort. Et après, nous nous sommes mis au travail.
Alors, vous êtes mis au travail. Par exemple, vous avez découvert que, à 8 ans, en 1904, Botule rencontre Baden-Powell.
C'est très étonnant, oui. Mais enfin, vous savez, si on reprend...
Il y a beaucoup de choses étonnantes.
Il y a beaucoup de choses étonnantes.
Mais enfin, là, je suis 8 ans, paf. Oui. Alors,
il y a quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a une armoire. Il y a aussi quelque chose, il y a effectivement cette tradition orale, mais heureusement pour nous, il y a une armoire de l'arrière. La métaphysique du mou, par exemple, c'est le travail qu'a fait Jacques Caillard, qui est un grand botulien, qui est, à partir de l'armoire de l'arrière, à partir des écrits, parce qu'il existe quand même, il n'a jamais publié de son vivant. En revanche, il a écrit, c'est un philosophe, il prend des notes.
Ben, un philosophe oral ne publie pas.
Voilà, un philosophe oral ne publie pas, donc, mais il reste des traces.
Il publie après sa mort grâce à vous, mais de son vivant et...
Mais même ses ouvrages ne sont pas construits, c'est-à-dire qu'effectivement, après, il y a un travail très très long. Jacques Gaillard a passé plusieurs années à essayer de reconstruire la métaphysique du mou, parce qu'effectivement, c'est des morceaux de phrases, c'est des morceaux de cahiers, c'est effectivement... Donc, c'est même pas construit comme un livre, c'est-à-dire qu'il n'a même pas l'idée de publier, c'est-à-dire ça ne l'occupe pas du tout. C'est là où c'est difficile un peu de reconstruire.
Le problème de Bénédicte Botule, c'est que c'est un génie. Il était génial, mais seulement quelques minutes par jour. Donc il avait comme ça des pensées, des fulgurances. Donc c'est une pensée par fragment. Donc certains de ses compagnons, ses amis, la famille, notaient parfois sur des petits morceaux de papier des dits et des non-dits, des pensées, des arrière-pensées. Mais seulement, voilà, c'est ça aussi, Botteux, qu'il faut bien comprendre. Donc il y a une pensée comme ça qui évolue, c'est un esprit qui va, n'est-ce pas, qui va